Une semaine sportmédable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonsoir à tous et bienvenue dans une semaine sportmédable pour décrypter l'actualité sportive de la semaine. Pour m'accompagner ce soir, Grégory Sigurg, Serge Denovac et Michel Quintin. Bonsoir messieurs.
Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
Au sommaire de cette émission, de la Formule 1 avec le Grand Prix du Qatar, du football avec un focus sur la semaine européenne et de la voile avec un point sur le Vendée Globe. Nous commenterons ensuite les autres faits marquants de l'actualité sportive de la semaine et nous terminerons comme d'habitude par les coups de cœur de nos invités. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par la voile. Michel Quintin avec vous. Le Vendée Globe, course autour du monde en solitaire et sans assistance, a démarré des Sables d'Olonne le 10 novembre. 40 engagés, environ 70 jours de course pour une arrivée prévue autour du 20 janvier. C'est une course mythique.
Bah, c'est une course mythique, on l'appelle l'Everest des mers, parce que voilà, c'est une course où tous les ingrédients sont là pour justement que ça soit mythique. Tout seul sur un bateau de 18 mètres, autour du monde, dans toutes les conditions, voilà, il faut se débrouiller tout seul, il n'y a pas le droit à aucune assistance. Quoi.
Ça paraît presque un peu fou.
Bah, au départ, ça paraissait complètement fou quand ça a été lancé. Et puis, bah, petit à petit, voilà, on voit maintenant 40 bateaux au départ. Ça se bouscule au départ. Il y a des sélections pour être au départ. Et puis, les bateaux, pour l'instant, on n'a qu'un seul abandon, ce qui est super. Enfin, par rapport aux éditions précédentes, même si les conditions étaient plutôt clémentes depuis le départ, c'est assez étonnant que, justement, qu'il y ait eu pour l'instant qu'un seul abandon.
Alors, le néophyte que je suis va poser quelques questions. Moi, je suis étonné de voir cette course à cette période de l'année, en fait. C'est peut-être pas la meilleure période pour naviguer à travers le monde.
Ben, si, parce que de toute façon, on traverse les deux hémisphères. De toute façon,
donc, il y en a forcément un défavorable à un moment.
Et ça s'est toujours fait à cette époque-là. Et pour preuve, c'est-à-dire que là, il y a Thomas Coville qui s'est lancé sur un tour du monde sur le trophée Jules Verne
ouais.
Pour essayer de battre le record du monde, justement. Et il vient de partir. Donc, c'est que la période aussi, toutes les équipes sont en stand-by pour aussi cet objectif, battre ce record du tour du monde, quoi.
Alors, vous avez répondu à la question. J'allais vous demander quel type de bateau, histoire qu'on éclaire un peu tous nos auditeurs sur ce qu'est le Vendée Globe.
Alors, c'est ce qu'on appelle des IMOCA qui mesurent 60 pieds, donc 18 mètres 28, donc des monocoques. Et voilà, c'est des bateaux qui, maintenant, sont devenus de plus en plus technologiques et ils sont sur foil pour une partie d'entre eux. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas pris cette option-là, mais c'est vrai que les meilleurs, en tout cas ceux qui dominent le classement pour l'instant, sont sur foil. Le premier bateau à dérive, on va dire, c'est Jean Le Cam qui tourne autour de la 20e place. Donc on voit déjà qu'il y a des différences de vitesse qui sont notables, puisque voilà, l'avance, on va dire, des foils par rapport aux bateaux à dérive, il y a plus de 2000 milles. C'est-à-dire qu'il y a Nouméa, Sydney aller-retour, comme différence pour l'instant. Et on en est qu'au
début. Sur un tiers de course, quoi.
Voilà, on en est qu'au début. Ils viennent de passer la pointe de l'Afrique du Sud pour les premiers.
C'est ça, le cap de Bonne-Espérance a été franchi vendredi par Charlie Dalin en tête.
Voilà, et puis, la course, elle s'étale jusque l'Amérique du Sud, puisque le dernier est sur la pointe du Brésil. Donc, il vient de passer l'Équateur il y a pareil quelques jours, fin de semaine dernière. Et puis, sa bataille a des grosses différences. Sa bataille, on a l'impression que c'est une régate du week-end, parce que les premiers sont vraiment navigués ce week-end à vue, c'est-à-dire qu'ils se voyaient les deux premiers.
C'est ça, il y avait 5000 nautiques entre Dalin et Richaume.
Voilà, et à chaque classement, pratiquement les trois premiers là, ils sont en train de, les positions changent quasiment à chaque en fonction des positionnements aussi qu'ils ont, le classement change et voilà, il y a une vraie régate, ce qui est étonnant. Et puis les vitesses qu'ils atteignent là, il y a le record du monde en 24 heures qui a été battu la semaine dernière par Sébastien Simon, qui est juste hallucinant, quoi. C'est-à-dire plus de 25 nœuds de moyenne sur 24 heures, c'est hallucinant. Ils vont quasiment, ils sont tout proches du record absolu en monocoque sur 24 heures. Donc, ils sont à quelques, voilà, à une vingtaine de milles, donc plus de 600 milles parcourus. Voilà, c'est étonnant et on se demande quand est-ce que ça va casser.
Ah, voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Ça veut dire qu'on se rapproche de la casse un peu plus chaque jour, quoi.
Bah, c'est vrai qu'il y a
du risque de casse en tous
les cas.
En tout
cas, ils disent qu'ils ménagent leur monture, mais c'est vrai qu'avec les vitesses qu'ils atteignent, là, on se dit que, voilà, soit le matériel est bien éprouvé. Mais là, ils arrivent dans les mers australes. Ils arrivent, voilà, dans, ils vont avoir leur première dépression là, aussi bien le groupe de tête que le groupe derrière. Ils vont être dans le dur d'ici le milieu de la semaine. Et donc là, ben, on va voir si justement s'ils arrivent à lever le pied ou s'ils continuent à attaquer comme des malades comme ils font actuellement. Quoi.
Alors, quels sont les favoris ? Parce que voilà, on a cité Charlie Dalin, on a cité Richaume et vous avez cité Sébastien Simon, mais qui sont pour l'instant plutôt devant. Mais est-ce que malgré tout, ils font partie des favoris ? Est-ce qu'il y en a d'autres qui pour l'instant sont un peu en dedans ?
Alors, ils font partie des favoris, c'est sûr. Mais voilà, c'est aussi une course à élimination, le Vendée Globe. Et justement, la casse intervient justement si on n'arrive pas à aménager sa monture ou après c'est voilà les chocs avec qui peuvent être avec des mammifères marins comme avec des conteneurs, il y a plein d'aléas qui fait que tant que la ligne d'arrivée est pas passée, la course est pas gagnée. Donc il y a des favoris qui sont un petit peu, on va dire, qui ont commencé à lever le pied, je pense. Voilà,
par exemple
juste derrière le trio, il y a Thomas Arruyan et Jérémy Béillou et Nicolas Luneven qui est aussi un tout bon. Et puis moi, je regarde aussi Yannick Bestaven, parce que on va dire son manager est Jean-Marie Doris, qui a été ici pendant très longtemps responsable de la base nautique du CNC. Donc c'est un copain, et donc on suit le vainqueur de l'édition précédente, c'est sûr. Et puis il y a les femmes derrière qui ménagent leur monture depuis le début, qui sont parties piano, notamment Sam Davis, l'anglaise, qui est positionnée, qui fait une course intelligente et voilà, qui revient doucement au niveau du classement. Elle est, je crois qu'elle est 9e ou 10e. Faut suivre aussi ceux de derrière, parce que si ça commence à tomber devant, c'est ceux qui sont derrière qui prendront le relais. Donc, et puis là, bon, on va voir aussi dans cette partie, dans les 50e, où il va falloir ça plus du tout être les mêmes conditions, et donc il y a peut-être des bateaux qui vont mieux s'exprimer dans ces conditions-là, qui ont été taillés pour justement les mers du Sud.
Si on trace un petit peu la route qui sont censés suivre, puisque en fait il y a un peu des points de passage obligés, ils vont continuer, donc vous l'avez dit, dans l'océan Indien, ils vont passer ensuite au sud de l'Australie. Voilà. Pour remonter un petit peu le long de l'Amérique du Sud, descendre au Cap Horn et remonter vers les Sables d'Olonne.
Voilà, ils contournent ce qu'on appelle la zone d'exclusion, c'est la zone des glaces, donc où l'organisation de la course justement met une limite à pas franchir en fonction de la dérive des growlers, qui sont des gros glaçons qui sont vraiment un vrai danger pour les bateaux. Et donc ils vont longer pour essayer de raccourcir au plus possible la route. Et donc au gré des situations météo, des dépressions, sans doute tirer des bords pour le long de cette ligne. Et pour aller maintenant, c'est vrai que le prochain cap à passer, c'est le Cap Horn, même s'ils passeront sous l'Australie et le Cap Lewin. Ils passeront sous la Calédonie aussi. Mais c'est vrai qu'après, c'est le Cap Horn et l'océan Pacifique que tout le monde redoute.
Dernière question sur ce Vendée Globe. On a dit sans assistance, ça veut dire qu'ils ont quoi dans le bateau concrètement ?
Ah ben, ils ont de quoi réparer le bateau. Ils ont, il y a des histoires assez mythiques là-dessus, avec Yves Parlier qui avait rematé son bateau, qui avait refait un mât dans le sud de la Nouvelle-Zélande, qui avait reconstruit un mât, rematé son bateau. Donc ils amènent à bord de quoi réparer. Il y a déjà eu un bateau qui présentait des grosses faiblesses avec un début de rupture et qui a été réparé justement par Burton, qui il a appliqué ses couches de carbone, il a restratifié tout ça pour repartir. Moi, j'espère que ça tiendra jusqu'au bout, mais ils ont à bord de quoi réparer, quoi.
Et ils se gèrent leur météo tout seul, c'est-à-dire que il y a vraiment pas d'assistance, pas de contact avec la Terre.
Non, alors, ils ont des contacts avec la Terre, mais les contacts sont très
timés,
et puis on n'a pas le droit de donner la moindre information sur justement un routage ou quoi que ce soit. Donc c'est eux qui sont autonomes. Ils sont équipés, ils ont ils reçoivent la météo, des cartes météo, mais il faut savoir que les prévisions météo dans cette partie du monde sont très, très approximatives. C'est-à-dire que c'est pas du tout, ils rencontrent souvent pas les conditions auxquelles ils s'attendent, et donc il faut pouvoir s'adapter en permanence.
Ok. Eh bien, on va suivre ça dans les semaines qui arrivent, avec, je le rappelle, une arrivée prévue autour du 20 janvier, mais au rythme où ils sont partis, peut-être un peu avant.
Ouais, il y a encore beaucoup de route.
Mais si on va passer à la Formule 1, où il n'y a plus de suspense concernant le classement des pilotes, on sait depuis la semaine dernière que Max Verstappen restera champion du monde pour cette saison. En revanche, le titre constructeur, le suspense reste entier. Grégory Sirg, entre McLaren et Ferrari, ça nous rappelle des belles années. Hein. Alors, il y en a eu un peu dans toutes les décennies, 76 avec Lauda et Hunt, en 98 Schumacher à Hakkinen, en 2007-2008 entre Hamilton et Raikkonen et Massa. Donc, une de plus, j'ai envie de dire, dans cette rivalité qui oppose les deux écuries. Quel est votre favori? Je vais vous poser la question tout de suite, comme ça on va se débarrasser de cette question.
Moi, je mets une petite pièce sur McLaren quand même, qui a été plus régulier toute la saison. Et qui a deux pilotes qui poursuivent exactement le même objectif de faire gagner l'écurie, quitte à des fois s'arranger un peu en course en se laissant passer ou en facilitant l'aspiration du premier sur le suivant pour être sûr de rentrer dans les points et de ne pas se faire doubler. Contrairement à Ferrari où on les sent un peu plus perso dans leur façon de piloter. Il y a notamment Sainz qui quitte Ferrari après le Grand Prix d'Abu Dhabi la semaine prochaine. Donc certes, il va vouloir briller une dernière fois, donc c'est pas dit qu'il laisse Leclerc passer s'il y a besoin. Leclerc veut lui aussi prouver que c'est le patron avant l'arrivée d'Hamilton la saison prochaine, donc je vois pas Ferrari passer devant Mercedes.
Bon, malgré tout, alors effectivement, il y avait 30 points d'écart entre Ferrari et McLaren au profit de McLaren avant le Grand Prix. Il y en a entre guillemets plus que 21, donc ils ont repris 9 points. La dynamique, elle est quand même pour Ferrari.
Alors, oui et non, il ne faut pas oublier que pendant le Grand Prix du Qatar, il y a eu une sanction assez difficile à comprendre qui a été prise à l'encontre de Norris, qui est la sanction hors exclusion la plus lourde qui puisse être prise et qui l'a fait passer de la deuxième place à la dernière quand il ressort des stands. En fait, concrètement, il a pris, pour expliquer aux auditeurs, il a pris une pénalité à exercer lors d'un passage au stand, mais sans touché à la voiture, donc il a été vraiment immobilisé pendant plusieurs secondes avant de pouvoir repartir. Donc tous les autres pilotes sont remontés, il a réussi à quand même remonter dans les points derrière, mais c'est juste ça qui explique le fait que Ferrari reprenne de l'écart et pas le pilotage des Ferrari.
Bon, on suivra ça donc sur le Grand Prix d'Abu Dhabi la semaine prochaine. Au niveau des pilotes, Verstappen a repris sa marche en avant.
Oui, il a assommé tout le monde lors du Grand Prix du Brésil. Il a continué ensuite à Vegas, et là, il confirme au Qatar. Donc, il a eu un gros passage à vide dans le courant de l'année. Mais maintenant qu'il a retrouvé la symbiose avec sa voiture, il est injouable pour les autres.
Alors, Leclerc fait deuxième, donc on l'a dit. Et puis, Piastri, troisième. La bonne nouvelle pour nous Français, c'est Gasly, cinquième sur Alpine.
Tout à fait. C'était assez inattendu, mais tant mieux. Hein, ça permet à Alpine, en plus, de grappiller des points au classement. Et les points en classement, on le rappelle, c'est plusieurs millions de dollars à chaque fois pour le développement de la voiture l'année prochaine. Donc, c'est toujours bon à prendre.
Alpine qui est sixième donc, du classement constructeur avec 5 points d'avance sur Haas Formula One Team.
C'est ça, les derniers Grands Prix leur font beaucoup de bien parce qu'auparavant, ils n'étaient pas du tout à ces places-là. Donc,
Sachant que Haas était dans les points aussi sur ce Grand Prix du Qatar, donc il y a une vraie bataille pour cette sixième place.
Oui, et en plus c'est assez, alors c'est rigolo et triste en même temps, il y a Ocon qui est chez Alpine et qui va chez Haas l'année prochaine. Est-ce que c'est dans cette perspective ou pas, je ne sais pas, mais Ocon ne devrait pas piloter au prochain Grand Prix. On verra qui ils vont mettre dans le baquet et dès la fin de ce Grand Prix, il attaquera chez Haas son nouveau contrat. C'est assez rigolo comme situation.
Ouais, donc peut-être qu'Alpine a un peu peur que les dés soient pipés.
Peut-être qu'ils aient peur qu'ils jouent contre eux pendant la course. Quoi.
Bon, on l'a dit sur ce Grand Prix, il y a une petite, avant ce Grand Prix, une petite anecdote, c'est Verstappen qui avait la pole et qui s'est fait reprendre la pole après un long délibéré des commissaires. Ça a duré assez longtemps parce que le verdict est arrivé autour d'une heure du matin à Abu Dhabi. Qui perdent sa pole au profit de George Russell.
C'est ça, de manière générale, le week-end, il a quand même été assez marqué par ce fameux collège des commissaires qui est chargé de faire respecter le règlement de la FIA lors des courses, pour toutes les courses et pour toutes les disciplines automobiles.
Avant, pendant et après.
C'est ça, avant, pendant et après. Et là, donc, il y a eu la décision sur cette pole. Il y a eu des décisions pendant la course qui étaient assez bizarres. Il y a eu la décision également pendant la course. Il y avait un débris sur la piste que tout le monde voyait, tout le monde dans le monde l'a vu à la télé. Ils ont décidé de ne pas le ramasser. Ils ont attendu qu'il soit éclaté en 1000 morceaux, que ça crève des pneus pour l'enlever. Enfin, c'était vraiment étrange. Et des décisions qui ont été motivées, surtout, pas par des observations du collège des commissaires, mais on a constaté que c'était des appels radio des pilotes à leur team qui déclenchaient les saisies du collège des commissaires. Donc c'était assez étrange à suivre. Après, pour l'avoir été à un petit niveau ici, c'est une place qui n'est pas évidente, sauf qu'eux, ils ont des centaines de caméras, des ralentis, etc. Donc c'est assez incompréhensible.
C'est surtout que ça remettait en cause assez souvent, pour ce que vous venez de citer, l'intégrité physique des pilotes, la sécurité des pilotes.
L'intégrité physique des pilotes a été remise en cause totalement avec les débris. Quand on crève un pneu à 300 km/h, je vous laisse imaginer ce qui peut se passer. Et également l'équité sportive qui a été totalement pipée pendant la course, quoi.
Bon, on suivra la fin de cette saison de Formule 1 à Abu Dhabi le week-end prochain, avec notamment donc ce titre constructeur en jeu.
Ça promet un très gros spectacle, hein. Ça, parce que c'est des pilotes qui vont pas laisser l'autre écurie gagner, évidemment. Ça, parce que ça fait plusieurs années qu'elles n'ont pas été elles-mêmes au championnat constructeur. Donc vraiment à suivre attentivement. Ouais.
Ça va même un peu éclipser le côté pilote, finalement. On va peut-être avoir droit à une course d'équipe, ce qui est devenu assez rare en Formule 1.
C'est tout à fait possible. Oui, oui. Bon.
Eh bien, on va suivre ça de très près dès le week-end prochain. Messieurs, passons au football. On va faire un retour sur la semaine européenne, et plus particulièrement la Ligue des Champions. Une semaine qui a été un peu compliquée pour les clubs français, mais pas que pour eux. Pour rappel, donc le Bayern a battu le Paris Saint-Germain 1-0. Le Barça a battu Brest 3-0. Monaco s'est incliné chez lui contre Benfica 3-2. Et finalement, le seul club français qui s'en est bien sorti cette semaine, c'était Lille, en allant gagner à Bologne. Serge De Novak, le bilan, je viens de le citer, mais les conséquences de tout ça, sachant qu'il reste 3 journées.
Eh bien, les conséquences, c'est que personnellement, je ne voyais pas le Paris Saint-Germain derrière les 3 autres clubs, que sont Lille, Monaco et Brest.
Qui sont tous les 3 à 10 points, du coup.
Ces 3 clubs-là sont à 10 points et Paris Saint-Germain est à 7, et aucun faux pas, naturellement, même si le prochain match semble relativement facile à Salzbourg pour le Paris Saint-Germain. Mais je dois dire que dans les 24, Paris va devoir lutter jusqu'au bout.
Alors on rappelle, il faut être soit dans les 8 pour être qualifié direct, et entre la 9e et la 24e place pour être qualifié sur le match de barrage.
Le match de barrage. Quand on sait que le match de barrage, selon les grosses artilleries que l'on peut avoir en face, ça va être difficile.
Et je ne sais pas, alors je n'ai pas la réponse, mais je ne sais pas si dans les matchs de barrage, il peut y avoir une opposition entre clubs d'un même pays.
Normalement, non.
Alors, ce qui déjà exclut, par exemple, Brest, Lille, Monaco est 8e, pour l'instant, serait qualifié direct, mais voilà, ça réduit aussi le nombre d'adversaires.
Tout à fait.
Voilà, donc le PSG n'est pas bien 25e, le Real Madrid n'est pas très bien non plus, 24e.
C'est une fin de cycle avec un nouveau cycle qui commence, et je crois que surtout on assiste à l'heure actuelle à l'Alali autour de Mbappé, et je crois qu'on devrait un peu le laisser tranquille. Ce serait mieux, parce que je ne parle pas des journalistes, je parle surtout des réseaux sociaux qui font énormément de mal, et c'est dommage parce que ça ne le mérite pas.
Alors si quelqu'un ici a la solution pour faire taire les réseaux sociaux, je pense qu'il va gagner beaucoup, beaucoup d'argent.
Tout à fait.
Malheureusement, effectivement, on sent un acharnement médiatique important autour de Mbappé. Son entourage ne s'en cache plus, hein, il n'est pas bien dans ses baskets. Mais le Real Madrid, c'est pas que Mbappé non plus.
Tout à fait, ils ont perdu quand même des grosses pointures. Hein. Je pense qu'ils n'ont pas le milieu de terrain qu'ils avaient encore l'an dernier.
Alors il y a Toni Kroos, voilà, absolument.
Et voilà, et alors on parle d'un retour, mais vous savez, les retours ne sont pas toujours gagnants. Et là, c'est un terme de tennis.
Et puis on a Manchester City, hein, dont on parle un petit peu plus en ce moment, parce qu'on oublie la machine à gagner que ça a été, mais aujourd'hui ils sont que 17e de cette... de cette Ligue des Champions au bout de 5 journées. Alors, une seule défaite, mais 2 victoires, 2 nuls, donc un bilan assez contrasté et mitigé. C'est pareil, alors, ils vont être dans les 24, mais ils peuvent se retrouver avec un match compliqué pour les barrages, et surtout, ils sont dans une dynamique vraiment pas bonne, avec un enchaînement de défaites en première ligue.
6 défaites consécutives, le Pep Guardiola, qui était jusqu'à présent magique, devient... Et bien Lucifer, et je crois qu'à l'heure actuelle, on attend qu'il soit un phénix pour renaître de ses cendres.
Alors ce qui est étonnant, c'est que le Manchester City menait 3-0 largement, tranquillement chez lui, et puis se fait reprendre en moins d'une dizaine de minutes, 3 partout.
Contre Feyenoord.
Contre le Feyenoord de Rotterdam, voilà, pas par étonnant. Liverpool en l'occurrence.
C'est étonnant quand on connaît un petit peu ce qu'est ce club, avec une histoire, un palmarès, un entraîneur et des joueurs qui ne laissaient jamais supposer une telle désaffection du public d'abord, et puis ensuite une catastrophe qui s'enchaîne de match en match.
Alors l'Etihad Stadium a été mal habitué aussi ces dernières années, hein, avec quasiment que des victoires, donc je pense qu'ils avaient oublié comment se prononçait le mot défaite.
Tout à fait.
Mais effectivement, ça a devient très problématique du côté de City. Ils ont encore perdu ce week-end contre Liverpool. Ils sont désormais à 11 points en championnat.
Oui, mais là, Liverpool, pour moi, c'est l'équipe en forme du moment. D'ailleurs, 15 points. Hein.
C'est la seule équipe avec 5 victoires sur cette phase de Ligue des Champions.
5 matchs. Je dois dire que c'est quand même la référence de cette saison. Donc, une grosse machine de guerre. Et je prédis qu'il soit quand même dans le dernier carré. Hein.
Alors le dernier carré, on sait qu'il est loin, on sait qu'il peut se passer plein de choses d'ici le mois de mai. Mais effectivement, ce que réussit Arne Slot juste après Jürgen Klopp, parce que pas facile quand même de prendre la relève de Jürgen Klopp avec ce qu'il avait fait à Liverpool. Là, c'est carrément...
C'est magique.
Ouais, ou inespéré. Je pense que...
En tout cas, le mot magique à inespéré.
Il avait peut-être pas prévu d'avoir un départ aussi bénéfique.
Mais une saison, vous savez, ça, c'est peu de choses au départ qui peut faire un tout à l'arrivée, et c'est des fois surprenant. Moi, ce qui m'inquiète plutôt, c'est le nombre de matchs. C'est le futur championnat d'Europe qui m'inquiète, parce que les joueurs vont arriver au bout du rouleau. La trêve hivernale, il n'y en aura pratiquement pas pour ceux qui vont faire les barrages. Ce qui veut dire qu'on va avoir des équipes nationales où on risque d'avoir un turnover terrible au niveau des titulaires.
Alors, avant même les barrages, on a donc ces 2 matchs de plus dans la phase de poule, là, qui se joueront donc au mois de janvier. Alors qu'habituellement, certains pays, je pense à l'Allemagne, font une vraie coupure d'un mois et demi quasiment, et ne jouent pas à cette période de l'année. Donc, ça peut aussi entraîner, effectivement, on parlait de véhicules qui cassent sur la Formule 1, mais on peut avoir des joueurs qui cassent aussi en football.
Mais pour moi, des joueurs à ce niveau-là, c'est des Formule 1. Et je plains les préparateurs physiques qui vont devoir être, faire preuve de génie, parce que ce n'est pas facile. Parce que quand on parle de sport collectif, à ce niveau-là, l'entraînement est individuel, en grande partie. Et la mise en forme et le maintien de la mise en forme, quand on sait que la mise en forme, c'est une espérance pour beaucoup, la tenir à ce niveau pendant aussi longtemps, ça va être très dur.
C'est aussi pour ça que les clubs sont de plus en plus dotés de joueurs. C'est-à-dire qu'on a des équipes à 40, 30, 35, 40 joueurs sous contrat.
Alors, c'est démentiel parce que ça fait une masse budgétaire sur lesquelles certains clubs ne pourront jamais s'aligner. On parlait tout à l'heure de cette masse budgétaire, c'est énorme. Parce qu'avant, on avait droit à 25 joueurs, maintenant on en est à 40, c'est... On double.
Alors, sachant que le règlement n'est pas pareil partout dans tous les pays d'Europe, hein, et qu'en Angleterre, on est quasi en nos limites.
Mais vous vous rendez compte, quand déjà on en met 11 sur le terrain, qu'il y en a déjà 6 sur le banc qui font la tronche, et 10 dans les tribunes, ou 20 dans les tribunes, qui eux sont naturellement complètement dématés, comme dirait mon ami Michel, c'est très difficile pour un entraîneur.
Allez, rapidement, on va passer au calendrier, donc en faisant un focus sur le PSG et le Real, les 3 prochains adversaires du PSG, puisque ces 2 clubs sont quand même en danger. Le PSG se déplacera à Salzbourg le 10 décembre, recevra Manchester City le 22 janvier et se déplacera à Stuttgart le 29 janvier. Donc ce n'est pas un calendrier si facile.
Je pense que ça se jouera sur ce match-là.
Sur le match de Stuttgart, sur la dernière journée.
Tout à fait.
On prend rendez-vous pour le 29 janvier alors. Et puis les trois prochains adversaires du Real, ce sera un déplacement à Bergame, pas facile parce que l'Atalanta est quand même pas dans le peloton de tête de cette phase de poule. La réception de Salzbourg là aussi, et puis un déplacement à Brest pour terminer le 29 janvier là aussi.
Est-ce que Brest se fera mieux que Lille?
Ah bah à Brest, voilà. En tout cas, Brest tient son rang pour l'instant, fait même plus que de tenir son rang. Messieurs, on se retrouve après une page de pub pour les faits marquants de l'actualité sportive.
RRB, c'est la pub.
Le tout info avec Mivi.
Mivi, votre spécialiste vitrerie, miroiterie, solutions techniques, sécurité acoustique et solaire. Mivi, expert en verre depuis 1994. Mivi, le verre, c'est notre métier.
Info Facebook ou le 24 11 84.
Ben alors mon frère, tu vas où avec ton chapeau cow-boy là?
Mais quoi, tu veux que j'aille où? Je démarre à Bourail, à la foire.
Eh hey, mais toi là, y a pas la foire de Bourail cette année.
Comment ça y a pas?
Ben oui, mais détends-toi, à la place y a le Royal Caledonia Show.
Ah t'es souhait.
Mais je dis bien, le Royal Caledonia Show, c'est organisé par le comité de la foire de Bourail, mais à Nouméa. Ça se passe à l'hippodrome Henri Millard les 7 et 8 décembre. Les plus beaux animaux seront présents et une petite ferme pour les enfants. Il y aura des stands, de l'artisanat local et même le rodéo.
Mais non, un rodéo en plein Val-Plaisance?
Mais ça mon frère, et l'entrée est seulement à 300 francs.
Ok, donc là t'es en train de me dire que ça fait une heure que je dame la benne du pick-up juste pour bouger à Val-Plaisance.
Oui, bon ben, on va mettre ça sur le dos de l'habitude. Hein.
Chez Gémeaux, préparez vos fêtes de fin d'année en un clin d'œil. Des vêtements chics et décontractés pour toute la famille, des chaussures, des accessoires de mode et bien sûr, des idées cadeaux pour gâter tout ce que vous aimez sans vous tromper et au meilleur prix. Gémeaux, taillé pour les fêtes.
Gémeaux, taillé pour la vie de famille.
RRB, on retrouve tout de suite la deuxième partie d'une semaine formidable avec Olivier Ledain et ses invités.
Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Et dans la deuxième partie de cette émission, nous allons donc détailler les faits marquants de l'actualité sportive de cette semaine, avec notamment un début du championnat d'Europe de handball féminin, avec deux victoires pour l'équipe de France face à la Pologne 35-22 et face à l'Espagne 24-22. Pour rappel, les Françaises avaient terminé deuxième des Jeux Olympiques, médaille d'argent, s'inclinant face à la Norvège. Elles sont donc forcément attendues pour ce championnat d'Europe. Grégory Sierg, un petit mot sur ce début de championnat d'Europe de handball féminin, le hand qui a quand même pris un essor incroyable en France depuis de nombreuses années maintenant.
Oui, et particulièrement le hand féminin même. On a récemment d'ailleurs une Calédonienne qui a rejoint l'équipe de France, sauf erreur de ma part. Donc on leur souhaite évidemment de continuer sur leur lancée et d'aller le plus loin possible dans ce championnat.
Michel Quintin, un petit mot sur le hand féminin?
Bah oui, je pense que les Jeux Olympiques sont une belle vitrine. Et donc, même si elles avaient, ça fait quelques années que le hand féminin est en haut de l'affiche aussi. Mais voilà, on espère que ça va aller jusqu'au bout, parce que c'est toujours magique de pouvoir les suivre jusqu'à la finale ou au moins jusqu'au demi. Quoi.
Elles sont championnes du monde en titre. Hein, on oublie un petit peu souvent de le dire quand les JO passent, mais elles sont championnes du monde en titre. Serge Denovac.
Un sport collectif qui est au soleil, hein. Pas forcément dans le Pacifique, mais enfin, ils sont sous le toit du monde. Ces filles sont sous le toit du monde.
On change totalement d'univers avec le biathlon à Kontiolahti en Finlande, l'étape de Coupe du Monde où la France s'est imposée en relais homme devant la Norvège et la Suède, avec notamment un Quentin Fillon-Maillet qui est le digne successeur de Raphaël Poiré, Martin Fourcade, merci. Là aussi, le biathlon, c'est devenu le sport français quasiment. Hein.
Profitons-en, parce qu'avec le réchauffement climatique, c'est pas dit qu'on en ait encore pour beaucoup d'années. Donc, notamment dans les stations françaises où il y avait des épreuves de Coupe du Monde, là pour l'instant, il n'y a pas de neige.
Bon, y aura toujours un peu de neige artificielle.
Oui, c'est pas pareil.
Michel, Quintin?
Ce qui est étonnant, c'est dans cette discipline, c'est qu'il y a très peu de licenciés en France. Quoi. C'est-à-dire que par rapport aux autres pays comme l'Allemagne, la Norvège, les pays nordiques, quoi, en France, il y a très peu de licenciés, mais on a des champions, mais qu'on garde
avec une longévité incroyable.
Voilà,
c'est vrai.
C'est vraiment étonnant et on peut que s'en féliciter. Quoi.
Et comme par hasard, chez les dames, on prend les trois mêmes nations pour les premières places. Alors on change un peu les ordres. C'est les Norvégiennes qui se sont imposées devant la France et la Suède. Donc là aussi. On est présent aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Donc on est sur une discipline qui est vraiment une discipline mixte au plus haut niveau pour la France, Serge de Novak.
Mais là aussi, je rejoins un peu de ce que disait Michel. Ce qui est étonnant, c'est qu'avec peu de licenciés, ils arrivent à faire quand même non seulement des podiums, mais à être constants dans la durée. Et ce qui a fait beaucoup, je crois aussi, c'est la TV qui a permis naturellement de retransmettre en permanence un petit peu les épreuves. Et les gens maintenant regardent facilement. C'est devenu un spectacle.
Bah c'est assez télévisuel malgré tout.
Oui, tout à fait, c'est télévisuel, mais le sport à ce niveau-là demande à être connu, et malheureusement, il était méconnu pendant très longtemps.
Bah voilà, je pense que le fait d'avoir deux ou trois champions du monde sur les 20 dernières années a contribué fortement Fourcade. à l'essor. Voilà, c'est vrai que Martin Fourcade a beaucoup contribué. On oublie souvent Raphaël Poiré avant, qui a été précurseur de ces générations, mais en tout cas un biathlon français qui va très très bien.
C'est un sport qui est quand même assez particulier, parce qu'après plusieurs kilomètres de ski de fond, faut arriver à tirer à 50-60 mètres dans l'équivalent d'un bouton de chemise. Donc je sais pas si on se rend compte de l'exploit.
Avec les doigts un peu pétrifiés par le froid, donc voilà. J'aurais envie de dire, ceux qui veulent essayer, bon, on n'est pas sous les bonnes latitudes aujourd'hui pour faire ça, mais si vous avez l'occasion d'aller faire un petit tour dans les stations de ski, voilà, je pense que vous allez comprendre quelles difficultés ça représente. On va passer au ballon ovale, et Toulouse et l'UBB Bègles-Bordeaux qui continuent de mener la course en top 14. La victoire des Toulousains sur le Racing 21-17, un peu plus étriquée que d'habitude, mais victoire quand même. Et une victoire encore plus étriquée pour les Béglés, 9-6 contre Montpellier. Mais en tout cas, ces deux équipes caracolent en tête du top 14. Qui veut commencer, Michel, Quintin ?
Moi, je retiens la victoire de Vannes contre La Rochelle.
Alors, je ne pouvais pas faire tous les éléments du top 14, mais effectivement, c'est un point marquant aussi.
Bah ouais, c'est un point marquant. Et puis, c'est bien, ça, parce que c'est une équipe qui se donne depuis le début de la saison et qui passe pas loin à chaque fois de victoires. Et là, voilà, ça en fait une. Et
qui fait tout pour s'extraire de cette 14e place du top 14. Si on revient sur les Toulousains et les Béglés, Grégory Sirac.
Je suis très content de la victoire de Toulouse. C'était assez poussif, parce que le Racing espérait se refaire après la défaite dans le derby francilien. Se refaire face au Stade Toulousain, c'est un mauvais calcul. Et malgré une domination très stérile en première mi-temps, les Toulousains ont quand même réussi à passer, mais on n'était pas loin quand même de la défaite. Hein.
Les Béglés aussi qui s'accrochent, un petit match, ça s'est joué au pied, 9-6.
Oui, mais... y a pas de... En top 14, c'est un championnat qui est tellement difficile et équilibré, il n'y a pas de petite victoire, et chaque victoire est bonne à prendre dans la perspective de finir dans les 6 en fin de saison.
Voilà, voire même, je pense que l'objectif est clair pour ces deux équipes, c'est de finir dans les deux pour éviter le barrage et d'être direct en demi-finale. La dernière info qu'on va commenter ensemble, c'est Liverpool qui donc a battu Manchester City cette nuit et qui compte désormais 11 points d'avance sur City, qui n'est que 5e. Ça, c'est quand même une vraie surprise, Serge de Novak.
Tout à fait, mais je crois que tous les ans on a un club comme ça qui arrive et on ne sait pas pourquoi. Alors on attend toujours les mêmes, on attend...
En première ligue, il y a quand même quelques équipes voilà, on sait que c'est des valeurs sûres.
Oui, et pendant longtemps, on a espéré Arsenal. Et l'Arsenal a été le poulie d'or du football anglais. Toujours deuxième et jamais premier. Et à l'heure actuelle, oui, c'est surprenant ce que fait Liverpool. Mais il ne faut pas oublier que Liverpool, avec un certain Gérard Houllier, avait fait le triplé à l'époque. Et il faut s'en souvenir quand même.
C'est ça. C'était d'ailleurs le premier entraîneur étranger de Liverpool. Grégory Sirk, sur ce Liverpool City et sur ce City qui n'est que 5e.
C'est le plus surprenant en fait. C'est le City 5e, vu l'effectif qu'ils ont, vu l'entraîneur qu'ils ont, la dynamique qu'ils avaient sur les dernières années. C'est assez incompréhensible. On a l'impression de voir des joueurs qui ne trouvent pas la solution en fait, puisque même quand ils arrivent à mener de 3-0, comme là en Ligue des Champions, ils se font remonter. On a vu l'état dans lequel Guardiola est ressorti du match. Alors, il ne peut pas s'arracher les cheveux parce qu'il est chauve, mais on a bien vu qu'il a essayé.
Il avait peut-être oublié finalement qu'il était chauve.
Donc, c'est ça qui est assez incompréhensible. Et puis Liverpool, tant mieux pour eux, parce que après un changement d'entraîneur qui est resté autant d'années, relancer une dynamique, c'est jamais évident. Maintenant, on va voir quand il y aura des moments de difficulté, comment il s'en sort. Alors, c'est là que ça va se voir.
Il n'y a pas de débat sur cette émission, mais il y a quand même un point qui pourrait faire l'objet d'un débat dans nos prochaines émissions, c'est que certes, ils ont changé l'entraîneur, mais l'effectif est extrêmement stable. Il y a eu très très peu de recrues. Donc ils sont avec un effectif quasi identique par rapport à celui de l'an dernier. C'est quand même important cette stabilité, Michel Quintin.
Oui, mais je crois que c'est justement ce qui fait peut-être qu'ils sont performants, puisqu'il y a une continuité, alors que les autres équipes, le temps qu'ils retrouvent des automatismes de jeu, la saison est déjà bien entamée. Et là, voilà, eux, ils sont sur une dynamique qui dure, quoi.
Bon, eh bien, on va suivre la suite de cette première ligue, mais on est surpris de cette cinquième place temporaire de City et cette dynamique qui les entraîne pour l'instant plus vers le bas que vers le haut. Messieurs, on va terminer cette émission avec vos coups de cœur. Serge Denovac, on va commencer par vous.
On oublie tout simplement pour un coup de cœur. Je veux dire que ce sont toujours les joueurs qui gagnent et c'est toujours l'entraîneur qui perd.
Donc voilà, un soutien à tous les entraîneurs limogés pour faire fusible.
Oui, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, si avec le palmarès qu'a Ancelotti, je pense qu'il doit avoir des nuits courtes.
Ouais, mais il n'a plus rien à prouver.
Exactement.
Grégory Sirg.
Pour ma part, un gros coup de cœur, alors c'était pas ce week-end, c'était le week-end d'avant, à la Nouméan, la course qui est organisée pour récolter des fonds pour la lutte contre le cancer du sein notamment. Et via un événement sportif, véhiculer un message de santé publique, je trouve ça toujours bien. Donc un gros coup de cœur à toute l'organisation et tous leurs bénévoles.
La transition est toute faite avec le CTOS, Michel Quintin.
Oui, parce que justement, c'était aussi mon coup de cœur. Ah. Donc moi, c'était le coup de cœur, mais c'est plutôt le coup de cœur, le sport au féminin, qui englobe bien sûr la Nouméenne, avec un nombre record, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu autant de participantes sur une épreuve sportive. Et puis ce week-end encore, la No Woman No Sales, qui montre aussi que dans toutes les disciplines, voilà, il y a une dynamique qui se crée au niveau du sport au féminin. Et puis on parlait du Vendée Globe tout à l'heure, je crois qu'il y a des féminines aussi, il n'y a jamais eu autant de féminines à faire le Vendée Globe. Et donc ça nous réjouit, toute cette fraîcheur justement qu'elles amènent dans le sport.
Eh bien, il va falloir qu'on fasse la même chose sur ce plateau et qu'on féminise un petit peu nos intervenants. Messieurs, merci à tous les trois d'avoir été présents ce soir et on se retrouve la semaine prochaine pour une semaine sportmidable.
Pour vivre le meilleur du sport, les plus grands matchs, les exclusivités, c'est seulement avec les offres Canal+. Canal+, le partenaire d'une semaine sportmidable sur Radio Rythme Bleu.